Blanche, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Gaël Grobetti, bonjour.
Bonjour.
Richard Henry, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux les auteurs d'un livre, d'un album pour jeunesse, hein, pour enfants, on peut dire ça comme ça. La Reine de Cœur, elle est tirée d'un de vos romans, votre premier roman, Gaël Grobetti, même titre, qui était paru il y a quelques années chez Cousu Mouche. Et puis, vous l'illustrez, Richard Henry, vous êtes illustrateur. On va essayer d'observer vos univers respectifs. Et puis, comment on travaille ensemble, hein, quand on se lance dans un bazar comme ça. Gaël Grobetti, vous êtes le local de l'étape, si je puis dire. Vous êtes oui. De la Riviera, Blonay, Vevey. On se donne rendez-vous sur l'esplanade Saint-Martin avec un paysage poignant devant nous, un soleil un peu timide qui disparaît derrière les nuages, mais toujours ce lac omniprésent. Cet endroit, vous l'avez choisi ?
Oui, alors quand on habite à Blonay, quand on grandit à Blonay, Vevey, c'est la ville. C'est la ville où on se rend pour faire les courses, pour faire la fête, pour aller se promener. Le bord du lac a une grande importance. Et cette esplanade, c'est un lieu de havre dans lequel j'aime bien me retrouver pour quitter, en fait, me retrouver un peu dans un endroit calme au milieu de la ville.
C'est un cimetière, hein.
C'est un cimetière, oui, effectivement.
Mais c'est un cimetière très accueillant, en fait, hein, très, très passant. On peut se promener, y compris d'ailleurs avec des chiens comme Cello qui m'accompagne. Pour vous, c'est une première, cet endroit, Richard ?
Non, moi, je suis déjà passé dans le coin pour les expos photos.
Mais je dis cet endroit de l'esplanade, là, devant l'église Saint-Martin.
Non, pour moi, c'est complètement nouveau.
C'est complètement nouveau. Vous êtes jurassien, belle, hein,
par contre.
Ça claque ou ça claque pas ?
Ça claque complètement. Les montagnes, elles nous manquent dans le Jura.
C'est vrai ?
Ouais, ouais.
Bon.
Puis le lac aussi, mine de rien, parce que on n'a pas grand-chose dans le Jura.
Bah, ça y est. Je sentais qu'il y aurait quelque chose de cet ordre-là. Gaël Grobetti, c'est un livre, c'était votre premier roman, La Reine de Cœur. Je vous avais reçu pour le deuxième, au commencement était Le Meurtre, vous y disséquiez et réinterprétiez à votre sauce le mythe d'Adam et Ève et du meurtre originel, hein, Cain et Abel. Ce premier roman, moi je ne l'ai pas lu, mais c'est aussi un mythe que vous chatouillez, celui de Guillaume Tell.
Oui. C'était en fait ce qui est assez intéressant, c'est que le projet est né en tant qu'album illustré pour enfants par une illustratrice qui était directrice artistique de projets de court-métrage auquel je participais il y a presque 20 ans et qui m'a dit j'aimerais illustrer un album pour enfants, un conte, mais avec le folklore suisse. Et moi, sans réfléchir très loin, je me suis dit folklore suisse, Guillaume Tell, mais j'ai tout de suite trouvé un lien plus pertinent que ça, c'était de me dire la pomme, qui est un élément évidemment très important de la légende de Guillaume Tell, c'est aussi un élément symbolique fort des contes. Donc, qu'est-ce qui pouvait se passer si la pomme de Guillaume Tell était magique ?
Il y a aussi une pomme dans l'histoire d'Adam et Ève, hein. Vous êtes, c'est une espèce de fil rouge chez vous, la pomme ?
Oui, c'est un fil rouge, effectivement. Le fruit, enfin finalement, cristalliser des histoires autour d'un élément symbolique fort qui traverse les lieux et les époques au niveau des légendes et des mythes, c'est quelque chose qui m'intéresse et j'ai aussi un projet de roman en cours là-dessus. Donc c'est vrai que c'est quelque
pomme.
Chose. Il y aura une pomme, bien sûr.
Ah oui, oui. Ah, c'est vraiment une ligne de vie.
Il y aura même un lien explicite avec mes deux premiers romans.
Ah bon. La pomme comme chemin d'écriture, c'est intéressant. Alors, c'était un roman, hein. Enfin, c'est toujours un roman d'ailleurs, hein. Il existe. Et puis, on en fait un album. Là, je l'ai devant les yeux. C'est un très bel objet d'ailleurs. Je sais pas comment ça a un nom en édition, ça, quand c'est horizontal, le format. Le dessinateur, là, non ? Il me regarde avec de grands yeux. Bon, enfin, bref, c'est horizontal. Ce sont des belles pages que l'on tourne. Mais enfin, on résume 200 pages de romans avec des intrigues, avec toutes sortes de choses, à une trentaine de pages avec des textes courts. Ce n'est pas de la BD, hein, c'est du texte illustré pour les jeunes. Il y a là un travail d'épure sacrificiel.
Oui, alors c'était mon épouse qui avait lancé le projet en contactant Richard. Comme il y a des enfants qui sont les protagonistes, elle trouvait dommage que nos propres enfants ne puissent pas avoir accès à cette histoire car le roman est trop complexe. Et donc en contactant Richard, c'est elle-même qui a élaboré un premier découpage. Le roman n'est pas chronologique. Une des premières étapes, ça a été de retourner à une structure chronologique pour faciliter l'accès de l'histoire aux plus petits, et ensuite de découper finalement l'intrigue en grandes étapes en supprimant tout le superflu.
Alors voilà, ce mot superflu, il peut être douloureux, non?
Oui, mais à partir du moment où on sait qu'il faut viser 20-30 pages, on l'accepte volontiers. Il y a effectivement, le roman est très riche.
Bah, le roman lui-même n'est pas un roman pour les enfants. Hein.
Non, c'est un roman
jeunesse.
Un roman pour adultes, éventuellement jeunes adultes, mais tout à fait. Donc on accepte l'exercice dès le moment où on s'adresse à un autre lectorat cible, finalement, on accepte volontiers l'exercice de l'épure.
Qu'est-ce qui vous a fait tomber dans l'écriture, Gaël Grobetti? Vous avez fait des études de lettres, vous alliez plutôt vers le cinéma, et puis tout à coup le besoin d'écrire.
Alors pour moi, c'est avant tout un besoin de raconter des histoires qui remontent à, en tout cas au gymnase, peut-être même à l'école obligatoire. J'ai toujours eu envie de raconter mes propres histoires, et à un moment donné, la passion que j'avais pour certains films m'a donné envie de faire du cinéma. J'ai testé, j'ai réalisé un ou deux courts-métrages, j'ai participé à des projets. Le problème, c'est que les exigences techniques, financières d'un film, même gestion d'équipe, c'est des choses qui me dépassaient. J'ai décidé que je préférais raconter des histoires par le biais, la solitude du raconteur d'histoire, mais aussi je me sentais plus maître de mes outils avec les mots qu'avec les images.
Bon, ça vous plairait qu'un de vos romans devienne un film? J'imagine que oui.
Ah, forcément, sûr, oui. Ouais.
Bon, vous ne leur facilitez pas la tâche aux futurs scénaristes, hein, parce que là, vous venez de dire que La Reine de Cœur n'était pas chronologique. Je me souviens qu'au commencement était Le Meurtre, pour lequel je vous avais rencontré. C'était aussi complexe. Hein. Il y avait des différents styles d'écriture qui représentaient différentes narrations. Il faut aller vers quelque chose de plus simple là, pour que le cinéma s'intéresse, non?
Probablement, en effet.
Bon, Richard, à vous. Vous êtes l'illustrateur, le dessinateur. J'ai vu que vos mondes étaient très vastes. Hein. En gros, tout ce qui peut se dessiner, quel que soit le support, ça vous intéresse, y compris la peau?
Tout à fait. Je me suis mis au tatouage il y a 5 ou 6 ans. Moi, mon objectif principal est simplement de dessiner. C'est une passion dans ma vie, que ce soit sur la peau, en tatouage ou...
Sur la toile, sur le papier,
exactement.
Sur l'ordinateur. Oui.
L'imagination, c'est mon outil. L'objectif, c'est de l'utiliser le plus possible, simplement.
Vous avez dessiné petit, avez travaillé ce talent, vous avez fait une école, ou c'est quelque chose d'instinctif et de travailler par vous-même?
Ça s'est fait depuis toujours. Depuis tout petit, j'ai eu des crayons en main. Et c'est devenu une passion rapidement.
Faisiez des caricatures des profs dans vos classes?
Non, moi j'étais plutôt à faire des petits monstres en général. Je suis resté dans les mondes fantastiques, et c'est vrai que dès le moment où je m'ennuie en classe ou n'importe où, je prends le crayon et je gribouille.
Alors je suis allé voir votre site internet. En effet, le monde tel qu'on l'imagine, mais vous venez de prononcer le mot, donc je suis confirmé dans mon instinct, un monde plutôt fantastique, parfois un peu noir, parfois un peu sexualisé aussi, des belles femmes, voilà, et oui. Puis des héros a priori menaçants, et puis tout à coup il faut travailler pour la jeunesse, hein. C'est évidemment un autre exercice, ça vous a demandé un effort particulier, une nouvelle façon d'imaginer les choses?
Non, pas tout à fait, parce que personnellement, j'aime beaucoup les défis. J'aime pas forcément m'arrêter à mes propres univers non plus. J'aime bien être influencé à gauche, à droite. On l'est de toute façon, mais c'est vrai que si on nous le demande, ben c'est un effort que je fais très volontiers. Il faut être ouvert de toute façon au monde qui nous entoure et aux idées apportées par les autres. Donc dans un cas comme ça, pour moi, c'était royal. C'est un monde qui est fantastique, mais avec des idées, des petites touches qu'on m'impose quand même. Non, c'est un challenge intéressant.
Alors, je garde ce mot « impose », hein, pour la deuxième partie. On verra comment on travaille ensemble, justement, quand on est scénariste, en plus auteur du bébé originel, hein, et illustrateur, comment vous avez bossé ensemble. Vous parliez d'influence. Quelles sont-elles pour vous? Au début, moi, j'ai pensé au Seigneur des Anneaux. Il y a des châteaux hantés.
Oh, elles sont vastes. J'ai quelques artistes clés, j'ai quelques films clés. Ça ne s'arrête pas à quelque chose de précis. Ça peut être des livres, ça peut être simplement un paysage que j'ai vu. Et une idée, elle part de rien du tout. Et finalement, on commence de ça et on arrive à quelque chose d'énorme. C'est ça l'imagination.
Gaël, vous connaissiez Richard avant de travailler avec lui?
Alors, pas personnellement, on s'était probablement rencontrés une ou deux fois à des salons. En fait, j'appréciais son travail pour les premières couvertures des romans aux éditions PVH, donc l'éditeur qui a publié ce livre illustré. Et c'est dans ce cadre-là qu'on en a discuté avec mon épouse, et c'est aussi pour ça qu'elle a contacté Richard.
D'ailleurs, vous avez raconté l'histoire de votre épouse, elle vous a fait une surprise en fait. Hein. Oui. C'est un cadeau de Noël même, j'ai vu ça à la fin du livre.
C'est exactement ça, un cadeau de Noël. Elle avait contacté Richard en cachette, elle lui a offert le roman, et ils se sont mis d'accord sur des croquis, des personnages principaux, ainsi qu'une sorte de mini-fascicule qui représentait sur 10 cm sur 7 à peu près le futur livre.
J'aime bien, 10 cm sur 7 à peu près. Le sens de la précision, Gaël Grombetti. C'est pas mal comme cadeau de Noël, dis donc.
Ah, c'était très très chouette, effectivement.
Touchant.
J'étais enchanté, oui. Ouais. Oui.
On va se retrouver pour la deuxième partie de cette émission. On va essayer de comprendre comment vous avez travaillé ensemble. Et puis, le travail après le travail, hein, parce que si on se rencontre aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une séance de dédicace le jour où on enregistre. Là, on est un peu avant Noël et évidemment, c'est un moment important pour l'édition. On en parlera également. À tout de suite.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Gaël Grombetti, Richard Henry, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission, toujours autour de cet album, La Reine de Cœur. C'est un bel album illustré. On est devant l'église Saint-Martin qui sonne à l'heure papy. Là, si, c'est l'écart. Voilà, il sonne la petite cloche d'écart. On a entendu quelques trains passer aussi. C'est la réalité de cette esplanade Saint-Martin à Vevey où nous nous trouvons. Je disais en fin d'émission que tout à l'heure, juste après avoir déposé vos micros, vous allez aller dans une séance de dédicace, Gaël Grombetti. C'est toujours ce moment intéressant de contact entre l'auteur, parlait tout à l'heure d'exercice solitaire et puis tout à coup, ses lecteurs, ses lectrices futures, hein, a priori, ils peuvent pas vous parler de l'objet puisqu'ils l'ont pas encore vu s'ils viennent l'acheter, mais ce moment d'échange, il est précieux pour vous ?
Oui, alors ça fait partie du métier si on veut, et c'est très agréable de s'ouvrir au lecteur, de voir que le livre suscite de l'intérêt, de pouvoir essayer, voilà, ça c'est l'improvisation de la dédicace. Moi j'essaye quand même d'adapter mes dédicaces en fonction des gens, de ce qui a pu se dire pendant les 5 secondes.
Vous avez une belle écriture ?
Non.
Ah, c'est terrible, ça. Hein.
Oui, non, j'estime ne pas avoir une belle écriture.
Je pense qu'il y a, il y a plein d'auteurs qui sont très embêtés, en fait, parce qu'ils ont une écriture de médecin dégénéré, comme moi, et l'exercice de la dédicace doit être un bel exercice, quoi, a priori.
Mon but, c'est simplement que ce soit lisible. Donc, je m'applique à ce que les gens puissent lire ce que j'ai écrit.
Bon, puis là, c'est pas mal aujourd'hui, parce qu'il y a Richard qui pourra faire un petit dessin à côté, puis ça sera beau de toute façon.
On va oublier mon texte.
Votre gribouillis. Bah, même question, Richard Henry. Le contact avec le public, depuis le début de cette émission, je vous pousse à rapprocher votre micro. Je vous sens assez timide, assez réservé. C'est un exercice qui vous plaît, qui vous gêne un peu, peut-être ?
Non, j'adore le monde. Aller au contact de mon prochain est quelque chose que j'adore.
Donc c'est juste le micro qui vous embête aujourd'hui.
C'est juste le micro. Il y a toujours un peu de pression à passer à la radio. Ouais. Non, alors moi mon objectif c'est de faire plaisir aux gens. Je me concentre sur ce que j'aime, le dessin, et puis à partir de là, je peux créer un petit quelque chose qui va donner le sourire.
Quand on est dessinateur, il y a forcément un dessin dans une dédicace.
Absolument. Après, ouais. En fonction du monde que nous avons en dédicace, je peux me lâcher plus ou moins sur un dessin. C'est vrai que si j'ai le temps, je vais en mettre une petite couche de plus que d'habitude, et puis ça fait toujours plaisir aux gens. Ça, si on voit que c'est apprécié, c'est gagnant-gagnant.
Bon, je promettais qu'on allait essayer d'observer un petit peu comment on travaille ensemble quand on se connaît à peine, hein, vous nous le disiez tout à l'heure, que l'initiative vient pas de vous en plus, Gaël, mais de votre épouse. Voilà, à un moment donné, il faut prendre contact, il faut s'asseoir, il faut que Richard ait lu le bouquin, je crois qu'il l'a fait. Enfin, je suis sûr qu'il l'a fait.
C'est fait.
Et puis s'entendre, quoi. Comment ça marche ?
Alors bon, le contact avec Richard est très agréable et très facile. C'est quelqu'un d'enthousiaste qui, effectivement, comme il l'a dit tout à l'heure, a trouvé de l'intérêt au projet à la base. Ça résonne quand même avec ses intérêts et les mondes qu'il aime explorer. Donc ça, c'était une première donnée agréable. Et après, ce qui s'est passé, c'est donc suite au canevas mis en place par mon épouse, Moi, j'ai établi un premier texte qui respectait plus ou moins le découpage en une dizaine de planches à l'époque. Au début, il n'y avait pas plus d'une dizaine de dessins prévus, entre 10 et 15. Et j'ai établi un premier texte. Et Richard a peaufiné ses premiers dessins. Et après, on s'est retrouvés pour débriefer par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on enlève du texte? Qu'est-ce qu'on garde? Et qu'est-ce qu'on complète dans les dessins? Il y a vraiment une phase un peu de tâtonnement qui a pris lieu.
Les personnages principaux hein, sont des enfants. Il y a tout le mythe de Guillaume Tell, mais c'est le fils de Guillaume Tell et sa petite copine qui sont les héros majeurs de l'histoire. Ça veut dire qu'il faut leur donner un visage. Hein. Et puis évidemment, ça sera essentiel, cet exercice-là. Vous l'avez beaucoup travaillé. Il y a eu plusieurs étapes, plusieurs tronches possibles pour le petit Walter, le fils de Guillaume Tell.
Ça s'est fait petit à petit. Moi, d'après les images que je me suis fait dans ma tête en lisant le livre, j'ai créé ces images-là. Ensuite, j'ai fait des retours, beaucoup de retours, voir ce qui plaisait, ce qui ne plaisait pas. Certains des premiers croquis avaient peut-être tendance un peu manga ou des expressions qui étaient un peu trop marquées.
Les yeux un peu grands.
Et simplement, oui.
C'est l'image que j'ai des mangas.
Mais c'est vrai que pour les enfants, ben, ça parle tout de suite. Et puis, je suis parti sur quelque chose comme ça.
Comment vous bossez là? Parce que ce sont des dessins très colorés, extrêmement précis dans le trait. C'est tout par ordinateur. C'est d'abord sur papier. Comment ça... La petite cuisine, un peu.
Ben, après qu'on ait fait ce retour avec Gaël... On a décidé de partir sur un style qui était plus précis, avec assez de détails, parce qu'on s'est directement dit que c'est pas parce que c'est des enfants qu'il faut les prendre de haut, il faut leur donner de la considération, et puis je trouve qu'ils savent apprécier si on leur donne un peu de matière. Et il se trouve que les enfants avec qui on a testé ont effectivement apprécié cette approche. On a continué pour chercher des effets de style et pour avoir un côté un petit peu authentique, on a décidé de garder les traits de feutre. Tout ne s'est pas fait à l'ordi finalement.
Okay.
C'est vrai que pour des couleurs pétantes, j'aime beaucoup cette approche digitale. Mais pour garder un petit côté un peu authentique...
Mais ça veut dire, pardon, moi je veux comprendre, vous travaillez sur les deux, donc il y a d'abord
exactement,
un croquis
oui,
dessiné, puis vous faites quoi
vous le si vous voulez,
je veux pas toutes les recettes, mais enfin vous le scannez, puis après vous le travaillez,
exactement,
c'est comme ça que ça marche
ouais. Okay. Alors pour commencer, je fais simplement un crayonné que je partage avec Gaël, qu'on va comparer, essayer d'étudier, et à partir de là, je fais un feutrage, et ce feutrage, une fois qu'il est concluant, que j'ai regardé avec Gaël, que ça convienne, je le scanne et toute la colorisation se fait à l'ordinateur.
Se fait après à l'ordinateur. Gaël Grobetti, c'est émouvant, j'imagine, de voir ces personnages prendre un visage, prendre une forme.
Oui, c'est passionnant. Et j'ai aussi beaucoup aimé quand Richard proposait des choses inédites. Notamment, donc la reine de cœur est une sorcière qui a une cabane dans la forêt. Et dans le roman, elle est décrite comme ayant une longue robe, un peu de noble dame. Sa cabane, c'est une cabane classique avec un toit pointu. Et en fait, Richard, là, a proposé quelque chose de totalement différent. Une espèce de presque de terrier planté dans la pente. Exactement,
ouais.
Avec un costume, elle a des bois sur la tête, un costume presque comme des plumes de tissu ou des écailles, un côté un peu animalier, être des forêts. Et ça, par exemple, j'ai adoré. L'idée a toujours été que cet album illustré ne devait pas faire double emploi avec le roman. Donc s'il pouvait y avoir des propositions qui lui permettent de s'en éloigner, c'était tout bénéfice.
La trame principale reste tout de même celle de votre imagination pour le roman. Ça m'intéresse aussi, ça, cette façon que vous avez de vous attaquer à des mythes. Et je réfléchissais, vous démystifiez pas, en fait. Vous faites un autre mythe. Hein. Vous appropriez le mythe, puis vous en faites autre chose. La question, c'est pas de dire... je dis n'importe quoi. Hein. Finalement, c'est le Bay Gessler, le gentil. Quoi. On va démystifier cet héroïsme suisse des origines. Non, c'est pas ça. C'est de construire un autre mythe avec le mythe.
Oui, alors... Mon but n'a jamais été, en tout cas, de renforcer le côté nationaliste et patriotique du mythe. Par contre, d'essayer de l'universaliser. Pour moi, l'ajout des éléments fantastiques et contes, c'est le re-rendre universel, si on veut. Et finalement, lui restituer une dimension dramatique de base. On s'est souvent moqué de Guillaume Tell, etc. Ça a été mille fois
revu. Peut-être, mais pas moi. se moquer de Guillaume Tell, enfin, voyons.
Mais d'autres l'ont fait. Et moi, en fait, je trouve que les étapes, les scènes clés de la légende ont une force dramatique indiscutable. Et là, on revient au cinéma. En imaginant, par exemple, un Sergio Leone mettre en scène l'épreuve de la pomme, ça aurait pu donner une grande scène de cinéma. Et mon idée, c'était un peu de faire oublier, presque oublier le contexte historique et cette dimension nationaliste patriotique qu'on attribue à cette légende, pour l'universaliser et lui restituer sa force.
Il y en a un qui disparaît, en tout cas c'est Guillaume Tell, hein. On le voit en petit, il est vraiment au second plan, il n'est pas le héros, et les scènes mythiques qu'on a tous en tête, elles sont au deuxième plan de votre histoire à vous. Quoi.
Tout à fait.
Ouais, c'est ça la démarche. Bon, on est maintenant avec un bel objet entre les mains, vous allez, je le disais, le dédicacer, on est à la période de Noël, hein, donc la Reine de Cœur, les éditions c'est PVH, hein. C'est une maison d'édition qui fait pas que de l'enfance, hein, évidemment.
Principalement non.
Principalement.
Ça a même été une exception pour ce cas ici parce que connaissant l'éditeur et ayant déjà travaillé avec, je savais que le travail de Gaël l'intéressait.
Pouvait les intéresser.
L'un dans l'autre, on s'est approché petit à petit. Il a fallu négocier sévère, mais on est arrivé.
Bon, j'aimerais que vous me parliez un peu de votre expérience de tatoueur, là. Ça m'a amusé de voir parce que vous avez un site internet. D'ailleurs, vous avez un nom qui ressemble à un mot de passe internet. Hein, c'est HDLite, c'est ça?
Exactement.
Comme avec des majuscules, des minuscules.
C'est comme ça que je le note, mais c'est comme la touche de l'ordinateur
pseudo, hein,
avec un H devant. En fait, HD... C'est la première lettre de mon nom et la dernière lettre de mon prénom. Mais c'est un pseudo que j'ai choisi quand j'avais 20 ans. Peut-être qu'avec le recul
maintenant...
Alors, sur ce site
où on voit beaucoup de vos dessins, de vos œuvres, y a ce que je disais avant, hein, c'est-à-dire que du papier, de la toile, de l'ordinateur, mais aussi de la peau humaine avec l'exercice du tatouage. Je me suis demandé, est-ce que vous faites les dessins de futurs tatouages ou est-ce que vous tatouez vous-même avec l'appareil qui fait mal?
Je fais les deux.
Vous faites les deux?
Oui, tout à fait.
Ah oui.
Mais comme je l'ai dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de créer le dessin, de créer. Et parfois, de ce que je faisais tout au début,
c'est pas anodin d'aller dessiner sur quelqu'un, c'est un
absolument
métier
pas.
Particulier.
Non. Mais le travail de base est le même, finalement. À la base, je créais des dessins pour des tatoueurs et j'étais pas toujours satisfait du résultat. Je voulais, moi, me mettre à la pâte. Et puis, finalement, ça faisait une corde de plus à mon arc aussi.
Voilà. Gaël Grobetti, j'ai vu que vous y êtes parti d'un autre truc bizarre, aussi un acronyme étrange, le Gaelig. Hein. Alors, ça, c'est le groupe des auteurs helvétiques de littérature de genre. Qu'est-ce que c'est que ce bazar?
La littérature de genre, c'est tous ces livres qui répondent un peu à des codes précis. Le polar,
le roman d'espionnage,
la science-fiction,
le western, si on va vers le cinéma,
aussi la romance, enfin tous ces genres-là, un peu par opposition à ce qu'on appelle la littérature générale ou la littérature blanche, qui répondrait plus aux qualificatifs, par exemple, de drame psychologique, ce genre de choses centrées sur l'humain, mais l'idée
c'est pas le cas auprès du public, mais c'est une littérature qui a rarement le prix Goncourt, quoi, pour être clair, qui est un petit peu roman de gare ou pas, mais enfin qui est un petit peu grand public et un peu déconsidéré par les grands, mais donc
très,
on peut le revendiquer,
dommage,
ça, voilà.
C'est très dommage parce que il y a une réelle richesse à tous les niveaux dans cette littérature. Moi je suis quelqu'un qui accepte volontiers la dimension divertissante d'une œuvre. Pour moi, il n'y a pas de raison qu'une œuvre ne puisse pas être grande, même si elle est divertissante. Et il peut y avoir une réelle profondeur dans une œuvre, que ce soit en termes de thématique, de personnage, et en même temps qu'on puisse s'y amuser un peu. Et dans mes livres, mais aussi dans une certaine mesure dans cet album illustré, je cherche à réconcilier finalement les deux aspects. Je revendique volontiers mon statut d'auteur de genre, mais aussi mon le statut de littérature de littérature plus travaillée finalement mais mon but c'est de concilier les deux.
Au final l'important c'est ceux et celles qui vont le lire, c'est le public et c'est elles et eux que vous essayez de séduire. La Reine de Cœur, édition PVH. C'est la fin de cette émission, ça tombe bien parce que le ciel veuvaisant nous est un petit peu hostile là, la pluie commence, on va vite ranger le matériel avant que un court-circuit nous interrompe. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission
et merci à vous.
Belle vie à la Reine de Cœur, c'est un joli objet à poser sous le sapin.